À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on reviendra aussi sur la marche féministe qui s'est tenue le week-end dernier. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on accueille le docteur Antoine Salmeron qui est psychiatre aux cliniques Elsan. Bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour les auditeurs et les auditrices.
Merci d'être avec nous pour cet événement qui a lieu cette semaine. C'est la 25e journée du sommeil et la Polyclinique de Poitiers organise une conférence débat grand public sur la thématique quand somnolence et santé mentale se croisent. Et donc, c'est vous en tant que psychiatre qui allez animer cette conférence. Alors déjà, peut-être l'importance de s'intéresser à cette question du sommeil et donc de ces journées du sommeil.
Oui, effectivement, vous faites bien d'aborder le sujet, je vous en remercie. Donc le but, c'était de sensibiliser un peu la population à la problématique de sommeil. Donc c'est à l'initiative de l'INSV, donc l'Institut National Sommeil et Vigilance, pour essayer de faire un peu le parallèle entre la santé mentale cette année et le sommeil, puisque le sommeil, c'est quand même un tiers de notre temps. Et donc ce serait dommage de passer à côté et en tout cas de rater les liens qui peuvent être évidents. Et méconnu du grand public. Donc là, c'est la journée du 14 mars pour les 25 ans de l'INSV.
Jusqu'à 75 ans, nous aurons tous dormi 25 ans, soit un tiers de notre vie. C'est assez impressionnant. Et alors, les derniers chiffres mettent en évidence une dégradation du sommeil des Français. Quelles sont, a priori, les causes de cette dégradation?
Alors, les causes, elles sont multiples. Donc là, on est dans une période, en plus, qui est un petit peu anxiogène, d'un point de vue de l'actualité, d'une part, mais aussi les moyens de communication. Qui vont nous solliciter toute la journée jusqu'à tard dans la nuit, les réseaux sociaux notamment, même s'il ne faut pas diaboliser un petit peu ces différents moyens de communication, mais peut-être les maîtriser un peu plus, qui vont retarder l'endormissement et entraîner donc une carence en sommeil et une baisse de la vigilance en journée. Et là en plus, ça tombe bien, c'est le sujet de vendredi, c'est-à-dire que ça va impacter aussi notre humeur et notre morale.
C'est ça, c'est qu'en fait, on souffre, un quart des Français souffrent de somnolence. Alors peut-être redéfinir ce qu'on appelle vraiment somnolence déjà?
Oui. Alors en fait, il y a différents termes qu'on utilise et qu'il faudrait peut-être expliquer. On y reviendra vendredi, mais là, rapidement, il y a la somnolence, la fatigue et le sommeil. Donc la somnolence, c'est quelque chose qu'on peut vraiment quantifier en faisant des examens, que ce soit à l'hôpital ou à la clinique, pour établir quelle est l'impact sur la journée. Donc c'est un état dans lequel on va tendre à vouloir s'endormir en dehors des horaires qui sont alloués. Et bien sûr, là, l'INSV, à la base, la création, c'était surtout pour se baser par rapport à l'accidentologie et les accidents de la route. On a aussi quelques données qui sont intéressantes par rapport à l'accidentologie. Et donc faire de la prévention pour améliorer un petit peu l'état physique et mental des Français.
Oui, alors l'accidentologie, c'est effectivement quelque chose que tout le monde connaît, hein, cet endormissement, le risque d'endormissement au volant. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des conséquences sur la vie quotidienne et sur la santé des gens. Ce n'est pas que cette question d'accidentologie.
C'est ça. Donc là, pour la partie qui m'intéresse, donc c'est plutôt le côté psychologique. Donc forcément, je pense qu'on a déjà tous et toutes expérimenté la carence de sommeil ou en tout cas les insomnies sur plusieurs jours. Et force est de constater que l'humeur se dégrade, on devient plus irritable, on a moins envie de faire des activités qui d'habitude nous font plaisir, on a plus de mal à se concentrer, des problèmes de mémoire, et ça fait parfaitement le lien avec notre sujet, puisque c'est aussi des critères de diagnostic de la dépression. Donc est-ce que c'est la dépression qui va entretenir une insomnie, ou est-ce que c'est une insomnie qui va déclencher une dépression? C'est tout l'enjeu de la sensibilisation et de nos conférences de vendredi.
Est-ce qu'il y a des profils de personnes qui sont plus à risque, on va dire, de cette somnolence, ou qu'on constate qu'ils sont plus touchés par ces somnolences?
Bien sûr, oui. Donc, c'est surtout les personnes qui vont avoir des travails avec des horaires postés, les travailleurs de nuit. En fait, dès qu'il va y avoir une altération du cycle veille-sommeil et jour-nuit, forcément, on est plus touché. Donc moi, je pense aussi aux urgentistes ou alors aux chauffeurs poids lourds, toutes les personnes, les infirmières de nuit, bien sûr qu'on n'oublie pas, mais effectivement, c'est ces travails de nuit qui vont être la cible prioritaire des troubles du sommeil.
Et pour faire le lien avec la santé mentale, ce qui est inquiétant aussi, c'est que les jeunes adultes ont l'air d'être touchés également, et on sait que c'est eux aussi qui sont plus vulnérables aujourd'hui à ces questions de santé mentale.
Effectivement, les jeunes adultes qui sont très sollicités, avec beaucoup de pression, notamment au niveau du travail et de la productivité. Nos élites ne sont pas exempts de ce phénomène, puisque on nous pousse à dire que dormir 5-6 heures, comme Barack Obama, c'est quelque chose de bien, ou Nicolas Sarkozy, ou Emmanuel Macron. Mais au final, c'est des idées reçues, et malheureusement, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a d'autres personnes comme Albert Einstein qui dormait 12 heures par nuit, et ça se passait très bien aussi.
C'est bien d'avoir d'autres références, effectivement. Alors, quand on commence à piquer du nez, comme on dit, on a tendance à boire plus de café, plus de toutes ces boissons énergisantes que certains aiment beaucoup. Ça, c'est pas forcément la solution.
Effectivement, c'est pas la solution. C'est un peu un cache-misère. Donc, ça va être tout ce qui est caféine qui va permettre de maintenir éveillé, mais qui, au final, ne va pas prodiguer les heures de sommeil qui sont manquantes, puisque le sommeil, il a un rôle réparateur au niveau physique. Il y a beaucoup de phénomènes physiologiques qui se produisent, et c'est pas avec de la caféine qu'on va remplacer, au-delà du risque addictogène en plus que ça peut déclencher. C'est plus un cache-misère qu'autre chose, malheureusement.
Et alors justement, quelles sont les habitudes peut-être qu'il faut prendre pour prendre soin de son sommeil?
Les habitudes, elles sont multiples, mais effectivement, il faut bien démarrer quelque part, donc ce serait diminuer tout ce qui est consommation de café, de thé à partir de 17h. On recommande, en tout cas l'OMS recommande, d'arrêter de consommer des excitants. Pareil pour la pratique sportive, on évite de le faire 2 heures avant d'aller se coucher le soir. Et on évite aussi les écrans, la lumière bleue, notamment les smartphones. Je sais que ça va être difficile pour certains, certaines, mais ça fait partie des recommandations. Et la sieste, il ne faut pas la diaboliser non plus. C'est quelque chose qu'on recommande sur la journée. Il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes. Mais en tout cas, ça nous permet de se maintenir un petit peu notre état de vigilance sans passer par des substituts.
Et alors, vous associez donc cette question de somnolence à des problèmes de santé mentale, par exemple l'anxiété, la dépression. Comment on fait ce lien? Voilà, quels sont les mécanismes en fait?
Quels sont les mécanismes? Alors, notamment ce qui est dépression et anxiété. En fait, plus on a des difficultés à s'endormir, plus on va appréhender la nuit qui va arriver. On va se dire, de toute façon, j'ai toujours mal dormi, donc ce soir, comme d'habitude, je vais mal dormir, je vais me réveiller à 2 heures, demain je vais être fatigué, je vais pas pouvoir assumer ma journée de travail. Et forcément, le soir arrive, on a du mal à s'endormir puisque ça n'arrive pas automatiquement. Et donc, on va réaliser la prophétie un peu autoréalisatrice de se dire que ben, de toute façon, on va se réveiller. Effectivement, on se réveille. Et là, on est dans un engrenage, un cercle vicieux. Et on peut travailler dessus. Il existe pas mal de méthodes notamment qu'on peut appliquer. Et ça, on pourra le voir un peu plus en détail.
Donc, c'est ce que vous allez aborder lors de cette conférence. Quelles sont effectivement les méthodes pour sortir de ce cercle vicieux un petit peu. Et alors, en tant que psychiatre, vous, à la clinique, comment vous abordez cette question du sommeil de vos patients? Justement, je ne sais pas s'il y a quelques pistes, sans les détailler forcément à ce micro, mais pistes thérapeutiques.
Les pistes thérapeutiques, ce qu'on recommande, donc déjà, il faut objectiver quelle est la plainte des patients, parce que là, on parle beaucoup d'insomnie, mais il y a aussi des patients qui souffrent d'hypersomnie. Donc, c'est des personnes qui peuvent dormir entre 14 et 16 heures par jour. Et donc, on peut voir les répercussions que ça peut avoir sur la vie quotidienne, puisque même en se réveillant au bout de 14 heures de sommeil, ces personnes sont encore fatiguées. Donc, il ne faut pas les oublier. Maintenant, nous, ce qu'on souhaiterait mettre en place, donc, c'est de la TCC, ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale. Sur l'insomnie, qui marche très bien, ça fait partie, c'est la première recommandation de l'OMS, ça marche très bien. Donc c'est des ressorts qui sont non médicamenteux, là aussi il ne faut pas diaboliser les traitements médicamenteux, hein, sous contrôle médical et dans des durées qui sont bien définies, c'est une solution aussi. Maintenant, il faut accompagner ça des thérapies cognitives et comportementales.
C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent par contre des médicaments ou en tout cas des compléments alimentaires pour le sommeil, ça vous le recommandez? Pas forcément, il faut que ce soit contrôlé.
Il faut que ce soit contrôlé, encore une fois. Ce qui marche très bien dans cette catégorie-là, c'est ce qui est mélatonine. Ça, ça marche très bien. Maintenant, attention, en pharmacie, on peut trouver un petit peu tout et n'importe quoi, avec des dosages qui sont différents, beaucoup d'extraits de plantes qui n'ont pas de résultats scientifiques probants. La mélatonine, ça marche. Attention à l'association avec les autres molécules. Et après, bien sûr, tout ce qui est traitement, les somnifères, etc., les anxiolytiques, ça fonctionne aussi, mais sous contrôle médical, encore une fois.
Et à quel moment on doit se dire, bon là, il faut que j'aille voir un spécialiste?
Eh ben, c'est une très bonne question, ça va dépendre de chacun à chacune. Maintenant, moi je pense, et ce que je conseille à mes patients, c'est dès qu'il y a une répercussion qui est négative sur le quotidien et qui empêche de fonctionner, c'est le moment de s'alarmer. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on a du mal à se concentrer, qu'on n'arrive plus trop à travailler au quotidien, qu'on se replie un peu sur soi-même, qu'on est un peu plus irritable et que ça sort de ce qui est la normalité de chaque individu, alors à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à nous saisir, puisque plus c'est pris tôt, plus on va avoir un impact bénéfique.
Eh ben, peut-être on peut finir par un dernier petit conseil du docteur Antoine Salmeron sur comment voilà, on prend soin de soi et comment le sommeil est important pour tout le reste.
C'est oui, une belle conclusion. Faites attention à votre sommeil, puisque le sommeil, c'est la continuité de votre journée. Si vous commencez par une bonne nuit de sommeil, forcément, vous mettez dans les meilleures conditions pour que ça se passe bien en journée. Il existe des solutions, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à nous consulter. Il y a beaucoup de moyens qui sont disponibles.
Donc ça se passe ce vendredi 14 mars, c'est à 14h30 à l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers, bâtiment A3. Et donc la thématique, c'est quand somnolence et santé mentale se croisent. Et donc il sera une conférence animée par vous.
Exactement.
Merci d'être venu dans Séquence Midi. Il y a plusieurs actions autour du sommeil. Le CHU ouvre aussi ses portes de 9h à 16h pour cette journée consacrée au sommeil. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue en musique avec le festival Nouvelle Scène qui ouvre ses portes demain à Niort. Vous pourrez entre autres y découvrir la semaine prochaine Clara Chimera, chanteuse du groupe Agar Agar qui se lance en solo. Voici son titre Slenderman.
Bon, bref.
Oui.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Dans le cadre de son engagement en unité d'enseignement d'ouverture à Radio Pulsar, Lina s'est essayée au reportage et elle s'est rendue à la manifestation du 8 mars. On écoute.
Ce samedi 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une marche féministe était organisée au départ du centre d'animation de Beaulieu. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies à l'initiative du collectif du 8 mars. Avant le départ, des membres du collectif et des membres d'autres groupements, tels que le FSU ou le NPA, prennent la parole, mettant en avant une défense des droits des femmes et des minorités. Aux alentours de 11h30, la marche a pu démarrer en direction du quartier des Couronneries, dans une ambiance conviviale. Les manifestants, escortés par la police, s'engagent sur les routes en passant par l'avenue John Kennedy, troublant alors la circulation.
Et là, en fait, c'est aussi hyper intéressant de ne pas être en centre-ville. Bon, il y a des copaines qui sont en centre-ville pour faire ça aussi, mais bien de prendre les routes, les gros boulevards, ça c'est super quoi.
Les manifestants, de tous les âges et de tous les genres, se sont réunis autour d'une défense des droits des femmes. Pour l'une des manifestantes présentes ce samedi, le constat est sans appel. Pour l'heure, l'égalité n'est pas encore d'actualité.
Ça fait 4 ans que j'étudie les chiffres sur les discriminations des femmes. Et en fait, c'est vraiment systémique et c'est hyper important pour moi d'être là et de manifester pour qu'on puisse reconquérir nos droits, qu'on puisse conquérir cette égalité.
Plusieurs enfants sont venus accompagner leurs parents pour cette marche. C'est le cas de Hélène, 11 ans, qui est venue avec sa maman.
Ma mère, elle est toujours féministe et moi, bah, du coup, je suis féministe aussi. Et bah, je trouve que c'est important de soutenir toutes les personnes, que ce soit femmes, trans, bi, personnes en situation de handicap. Voilà, je trouve ça important.
De nombreux groupements étaient présents lors de cette marche. Les syndicats se sont notamment mobilisés contre les inégalités salariales. C'est ce qu'explique Christophe Rabussier, le secrétaire général de la CFDT de la Vienne.
C'est important parce qu'on se bat toute l'année, nous, pour l'égalité salariale, c'est-à-dire l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui encore, les salaires des femmes sont en gros 20% inférieurs aux salaires des hommes dans les entreprises. Donc nous, on défend ça tout au long de l'année dans les entreprises, l'égalité salariale. Et donc pour nous, c'est important de témoigner de ça aujourd'hui.
Lors de cette marche, étaient aussi présents des membres de l'Oxfam. L'ONG, qui vient tout juste de poser ses valises à Poitiers, vient de sortir un rapport sur les inégalités. C'est ce qu'explique l'une de ses représentantes.
Ça nous paraît important d'être ici puisque Oxfam vient de sortir un nouveau rapport sur l'égalité homme-femme. Et on constate malheureusement, rien qu'en titre par exemple, qu'il va nous falloir 300 ans pour atteindre l'égalité homme-femme dans le monde, et plus exactement 171 ans en France.
Les manifestations ne se sont pas arrêtées là, et à 15h, une seconde marche était organisée en centre-ville par les féministes révolutionnaires à Poitiers.
Demain dans Séquence Midi, on parlera des nouveaux marchés de la restauration collective de la ville de Poitiers, mais aussi du festival Jazz Odyssée qui fête son anniversaire. Et tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma en compagnie d'Erwan, service civique au cinéma Le Dietrich. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous parles de deux films, Reine-Mère et Mickey 17.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas si courant au Dietrich, mais cette semaine, c'est une comédie qui va sortir sur notre écran. Et pas n'importe laquelle, car c'est le nouveau film de Manel Labidi qui s'intitule Reine-Mère. C'est son deuxième long-métrage après Un divan à Tunis, sorti en 2019, qui mettait en scène l'actrice Golshifteh Farahani à Tunis, alors qu'elle ouvrait un cabinet de psychanalyse au lendemain de la révolution tunisienne. Là, dans son nouveau film, elle revient situer l'action en France, dans les rues de Paris, au début des années 90, et c'est là qu'on rencontre Amel, jouée par une très convaincante Camélia Jordana, très à l'aise dans ce rôle de mère au foyer avec deux filles, et son mari Amor, interprété par Sofiane Zermani, qui essaie tant bien que mal de garder un niveau de vie confortable pour leurs deux filles malgré les difficultés financières qu'ils rencontrent. Mais parallèlement, c'était sans compter sur l'imagination puissante de l'une des deux filles, Mouna, qui commence à se représenter et à parler à l'ancienne figure historique Charles Martel après un cours d'histoire dans lequel elle a appris que celui-ci aurait repoussé les Arabes de Poitiers en 732. Le pitch est quand même très gourmand en informations et assez fantasque, je peux vous l'accorder, donc on va y revenir étape par étape. Tout d'abord, c'est un deuxième long métrage, comme je vous l'ai dit plus tôt, mais qui entretient une vraie continuité thématique avec le premier. La réalisatrice est imprégnée des questions d'identité relatives aux immigrants arabes, car elle est elle-même de cette origine, et c'est d'ailleurs dans son enfance et dans son expérience personnelle qu'elle va puiser une majeure partie du point de départ, mais aussi du point d'ancrage dans le réel, de son histoire et de ses personnages. Ce qu'elle décrit et la manière dont elle caractérise et dépeint leur réalité, c'est ce qu'elle connaît, c'est ce qu'elle a vécu étant petite. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les représentations de la famille arabe qui sont faites dans Redmer ne correspondent pas forcément à celles d'un imaginaire collectif construit à notre insu au fil des années dans les films, séries ou même journaux en tout genre. Ici par exemple, le mari n'est pas un homme violent parce qu'il est arabe ou leur origine ne les définit pas dans la société. Mais pourtant, et c'est là toute l'intelligence du film, c'est le point de vue des autres qui veut tendre à les définir uniquement par le fait qu'ils soient arabes et tous les préjugés et stéréotypes qu'ils pensent connaître d'avance sur eux. C'est le cas par exemple dans leur recherche de logement social, où les deux parents vont se heurter à d'odieux préjugés. C'est le cas aussi dans la recherche de travail du personnage de Camélia Jordana, doublé du fait que bien sûr c'est une femme. Et c'est surtout le cas à l'école, à travers le personnage de Mouna, qui reçoit comme un électrochoc cette histoire qu'on apprend encore à l'école comme un acte héroïque de Charles Martel et l'image que cela dépeint toujours des arabes aujourd'hui. C'est dans cette dimension un peu fantastique que le film trouve un parfait relais de son propos et le choix de ne pas en faire un drame mais bien une comédie avec des vrais moments de rire, des quiproquos, des moments heureux, appuie la dimension malgré tout optimiste et lumineuse sur laquelle veut jouer la réalisatrice afin de contrer les différents préjugés inscrits dans notre société sur les personnes arabes. Donc le film sort en salle dès aujourd'hui et sera visible au Dietrich pendant les prochaines semaines. Et bien sûr, ces dernières semaines, vacances oblige, nous n'avons pas pu vous parler la semaine dernière de la sortie de Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, réalisateur entre autres de Memories of Murder, The Host, Snowpiercer et surtout de Parasite, Palme d'Or et Oscar du meilleur film en 2019. Le film est une comédie dramatique de science-fiction futuriste, bref, plein de trucs très chouettes, et qui nous raconte l'histoire de Mickey Barnes, joué par Robert Pattinson, qui va s'engager dans une expédition spatiale en tant que remplaçable. Un remplaçable, c'est une personne qui peut être réimprimée littéralement une fois qu'elle meurt. Jusqu'au jour où le Mickey version 17 tombe nez à nez avec une nouvelle version imprimée de lui-même, le Mickey 18, ce qui est normalement totalement interdit. C'est une vraie chance qu'on puisse avoir un film de ce calibre au Dietrich. On parle d'un film à 120 millions de dollars produit à Hollywood quand même, mais ça reste un véritable film d'auteur et une satire sociale de l'Amérique plutôt mordante, je trouve, et qui, si elle divise plutôt la critique et le public, mérite d'être vu pour son originalité et ses prises de risques. Alors n'attendez plus et foncez au Dietrich.
Merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Ça donne envie de se faire un petit cinéma avec la pluie qui revient. C'est parfait. Tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Les événementiels job dating, ces temps forts de recrutement, fruit d'un partenariat entre Grand Poitiers et la ville de Poitiers, le CCAS, France Travail et la mission locale d'insertion du Poitou, se tiennent tout au long du mois de mars pour postuler aux emplois proposés cet été avec des rendez-vous d'information et des entretiens en direct. Donc cet après-midi, c'est au centre d'animation des Couronneries de 14h à 17h30. Le 19 mars, ce sera au centre socioculturel de la Blaiserie et le 21 mars, au centre socioculturel des Trois Cités. Cet événement permet aux demandeurs d'emploi, notamment les jeunes, de rencontrer directement des recruteurs en vue d'obtenir des jobs saisonniers. Et puis l'échange se fait sans obligation de fournir un CV. L'objectif, c'est juste de faciliter le contact entre employeurs et candidats pour discuter des opportunités disponibles. Nouveauté cette année, des créneaux d'interprétariat sont proposés en langue des signes française. Alors, quelques exemples de métiers proposés, agents ou agentes administratives, d'accueil, de surveillance des musées, de bibliothèques, d'entretien, de voirie, de déchetterie, de restauration. Ça peut être aussi guide, médiateur ou médiatrice culturelle, jardinier, jardinière, soigneur ou soigneuse animalière, médiateur ou médiatrice dans les équipements sportifs, manutentionnaire, aide-soignant, animateur, maître-nageur, etc., etc. Créer une planche de BD à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est ce que vous propose l'espace Mendes France à 14h30. Générer des images avec l'intelligence artificielle permet d'aider à la création d'une bande dessinée, mais c'est aussi découvrir les limites de son usage. C'est pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans. Le plein tarif est de 15 euros. Voyage dans la mémoire, c'est à partir d'aujourd'hui au local. La quinzaine des visibilités présente une exposition photo qui retrace l'internement des nomades de 1940 à 1946 au camp de Poitiers et de Montreuil-Bellay. C'est présenté par l'ADAPGV et la FNASAT et il y aura même une visite commentée le samedi 22 mars à 18h avant le spectacle Contes et Décomptes. L'entrée est libre. Et puis l'exposition se tient jusqu'à la fin du mois. Atelier rénové mon logement à 18h à la mairie de Jansey. De l'amélioration du confort aux performances énergétiques, la rénovation du logement doit respecter l'existant tout en s'adaptant à vos besoins. Cet atelier apporte les clés nécessaires pour aborder sereinement votre rénovation. L'inscription est gratuite et se fait sur le site caue86.fr. Qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est à 20h30 à l'espace Mendès-France, une conférence-spectacle avec Jean-François Bourinet et Frédéric Périgaud, des comédiens. Explication sur le fonctionnement de notre cerveau en faisant des liens avec ce qu'ils connaissent le mieux, le théâtre. Spectacle suivi d'échanges avec les artistes et des scientifiques, puisque c'est la semaine du cerveau actuellement. C'est pour tout public à partir de 12 ans et le plein tarif est de 8 euros. Sur Pulsar, retrouvez à 21h l'indépendance avec les bisounours joyeux d'Annika. C'est le titre indispensable de ce mercredi. Et à 23h, Sonokino, Joe Hisaishi et Hayao Miyazaki. Ce mercredi, dans Sonokino, on se demande si les solutions pour sauver la planète ne seraient pas par hasard dans les films du parrain de l'animation japonaise. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec Uto et ce titre Napkin. Bonne écoute, à demain.
Build on a bit in the